Un an ou presque depuis le 13 novembre et les terribles attentats qui ont ensanglanté la capitale, quelle est la situation vis-à-vis des djihadistes? Où en sont ces forces en présence en France? Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Vous publiez La Fracture aux éditions Gallimard, une coédition avec France Culture. Vous souhaitez aujourd'hui intervenir dans le débat de la présidentielle. Pourquoi?
Parce que vous l'avez remarqué comme chacun, l'islam est devenu l'un des éléments de la présidentielle. C'est parfois traité un peu n'importe comment, à la fois pour susciter des réflexes démagogiques ou pour rassembler des partisans à droite et à gauche. Et il m'a semblé nécessaire que quelqu'un comme moi, qui avait passé bientôt 35 ans à travailler sur ces questions, aussi bien en France qu'au Moyen-Orient ou à l'étranger, dise ce qu'il avait à dire pour que nos concitoyens, quand ils sont confrontés à ces questions, sachent à peu près de quoi il s'agit. Et j'ai voulu, là-dedans, si vous voulez, me faire en sorte que l'université, qui est très largement marginalisée aujourd'hui dans le débat public, participe à l'explicitation de quelque chose qui est complexe et sur lequel les simplifications sont mortelles.
Alors ça c'est une déclaration générale, mais plus précisément l'Obs publie une interview de vous, Gilles Kepel, et là vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous accusez une partie des intellectuels de gauche, je lis l'article de l'Obs, idéologue utile des islamistes, de minimiser le phénomène djihadiste, une cécité criminelle selon vous. Alors ça n'est pas la première fois que la gauche est accusée de complicité avec le djihadisme. Il y a déjà eu le livre de Jean Birnbaum, Un silence religieux, autour de cette question. En ce qui vous concerne, Gilles Kepel, qui sont ces islamo-gauchistes qui seraient en quelque sorte aveugles?
En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quelque chose qui s'est passé cet été, c'est-à-dire la polémique autour du burkini. D'un jour à l'autre, la France, qui était une victime universellement plainte, on avait eu Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Bataclan, les assassinats du 14 juillet, ensuite le père Hamel et d'autres, bien sûr, est devenu un bourreau. La victime est devenue un bourreau et la France est devenue une sorte de goulag dans laquelle la laïcité aurait, pour les femmes musulmanes, dans laquelle la laïcité aurait tenu lieu de stalinisme. Et en regardant ça d'un peu plus près, en fait, je me suis rendu compte que cette opération d'occultation, si vous voulez, des crimes djihadistes, pour ne plus en parler, et substituer ce morceau de tissu à la place, était très largement l'œuvre d'une organisation qui s'appelle le Collectif contre l'islamophobie en France, qui est dirigé par un personnage très charismatique qui a eu droit à une pleine page très élogieuse dans le quotidien Le Monde cette semaine, du reste.
À demi élogieuse.
Oh, vous avez, si vous avez trouvé de la distance, si vous avez pris un microscope.
Non, on entendait des détracteurs de cette personne, notamment Gilles Craveux.
Mezza voce, oui.
En tout cas, on l'écoute, Marwan Mohamed, c'était sur LCI le 16 avril dernier.
Le problème, à mon avis, dans la société française aujourd'hui, et notamment dans l'espace public, c'est que dans l'espace médiatique et politique de notre pays, on s'autorise désormais à dire des choses qui sont dans l'outrance. On a des ministres qui sont actuellement en fonction au gouvernement, qui font des déclarations, je cite, sur les nègres américains qui seraient pour l'esclavage, sur des femmes voilées.
C'était une maladresse, elle s'est excusée depuis, Laurence Rossignol, là-dessus.
C'est pas une maladresse, elle est revenue sur le qualificatif en d'abord confisquant la parole des premiers intéressés, et puis ensuite pour confirmer la marginalisation d'un autre groupe dans la société, à savoir notamment les femmes voilées, dont Manuel Valls, pas plus tard qu'hier, nous disait qu'elles étaient asservies. Manuel Valls, quand il dit ça, il est dans la droite ligne de son idéologie, de ses idées, il est en train de se radicaliser, il utilise des mots qu'il n'est même pas capable de définir, et donc il met l'incendie au pacte citoyen français.
Voilà un exemple donc du discours de Marwan Mohamed.
Oui, je cite dans le livre justement un de ses discours très intéressants qu'il a tenu à la mosquée de Tremblay en France, à la fin de l'été, justement, quand l'affaire du burkini allait s'épuiser faute de combattantes, puisque la saison des plages étant terminée, on allait remettre ça dans les armoires, et où il explique, à la suite de cet incident qui n'est pas encore complètement élucidé du reste, où deux jeunes femmes se sont opposées, opposées un refus de vente dans un restaurant bien connu de la région qui servait de l'alcool, etc., que au fond, il fallait désormais que les musulmans s'organisent en lobby électoral électorale et détermine lors des prochaines élections quel candidat serait plus ou moins islamophobe pour voter pour eux ou voter contre eux. Et alors, bien sûr, on a le droit de s'organiser sur ce type de bataille dans la société française, mais en tout cas, il faut le dire, il ne faut pas s'imaginer que là, il s'agit simplement d'une revendication de droits de l'homme ou autre. Il s'agit, je pense, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, d'un phénomène parallèle. C'est pas seulement les intellectuels de gauche, ça c'est pas mon livre et celui de Birnbaum n'ont pas grand chose à voir de ce point de vue-là. Ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est ça le sens de cette fracture, c'est que d'un côté, vous avez une volonté de victimisation communautaire au nom de la lutte contre l'islamophobie, entre guillemets, qui voudrait faire en sorte que tous les musulmans se regroupent d'abord autour d'une foi qu'ils perçoivent comme accusée et montrée au doigt, et qu'ils soient dans une logique de rupture culturelle avec la société française, alors avec des variations différentes. Les frères musulmans ne sont pas la même chose que les salafistes, lesquels ne sont pas la même chose que les djihadistes, bien sûr. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Et de l'autre côté, en parallèle, vous avez la montée d'un identitarisme qui se traduit par la poussée de l'extrême droite, où là aussi on se replie sur une identité française ethno-raciale pour laquelle les musulmans ne seraient pas de vrais Français, etc. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que c'est la question aujourd'hui des identités qui se pose. Vous savez qu'Alain Juppé a parlé d'identité heureuse, d'autres lui répondent d'identité malheureuse. Bon, c'est une chose, mais je crois que ce qui est fondamental et ce qu'on oublie, c'est que l'identité, surtout dans une société comme la France, qui s'est basée au départ sur une idéologie de laïcité, un grand récit de la laïcité et des Lumières, l'identité, c'est ce que l'on se construit comme étant. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est que dans une société comme la France, où 40% des jeunes dans les quartiers défavorisés sont au chômage, n'ont pas de boulot, comment voulez-vous qu'ils se construisent, qu'ils se projettent dans quelque chose? Comment voulez-vous que les savoirs que vous acquérez à l'école, qui ne vous servent à rien pour trouver du boulot, et qui vont avec des valeurs, comment voulez-vous que les gens gardent ces valeurs? Ils les jettent avec l'eau du bain, et c'est ça le gros problème. Et ce livre, en ce sens, c'est un livre qui se veut questionner les candidats à la présidence de la République. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre République, messieurs et éventuellement mesdames, quoiqu'elles ne sont pas très nombreuses?
Mais alors, en fait, vous traitez de différents sujets, Gilles Kepel, parce que il n'y a pas, en fait, une ligne droite qui mènerait, donc, depuis ces entrepreneurs identitaires tels que Marwan Mohamed, jusqu'aux terroristes et jusqu'aux djihadistes, ou bien vous considérez au contraire qu'en communautarisant en quelque sorte un certain nombre de personnes de confession musulmane, eh bien, on fabrique des terroristes pour le futur?
Non, c'est pas du tout ça. Ce sont des stratégies différentes. Ils font en parallèle, si vous voulez. Les djihadistes ont eu cette... quel est l'objectif des djihadistes? L'objectif, c'est de fracturer la société. C'est très clair. Depuis les bouquins de Abou Moussa Bessouri et autres, mis en ligne en 2005, appel à la résistance islamique mondiale, j'ai traduit en français en 2008, qui à l'époque n'avait pas beaucoup suscité d'intérêt, alors qu'on avait là le mode d'emploi de ce qui allait se passer dans les années suivantes. Et l'objectif, c'est de provoquer la société, de multiplier les effets de sidération, les meurtres le plus horribles possible, pour que, en retour, il y ait une réaction violente, qu'il y ait des lynchages, des pogroms, etc. Et le vote d'extrême droite, ça, de ce point de vue-là, ça a marché. Et à partir de ce moment-là, on va avoir des gens qui vont se trouver en permanence sous le coup du soupçon. C'est-à-dire, et c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui, au moins jeunes musulmans, à qui on dit, tu t'appelles Mohamed, mais le gars qui a tué les gens à Nice s'appelle aussi Mohamed. Vous croyez dans le même Dieu, explique-toi. Et c'est parfaitement normal que ce jeune homme, ou cette jeune femme, ou plus âgé, en ait marre de devoir passer son temps à s'expliquer. Il n'a rien à faire il les déteste, les djihadistes. Il en a assez. Bon. Alors, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les entrepreneurs de la lutte contre l'islamophobie, CCIF et autres, qui disent « mais on va arrêter de parler des attentats ». En fait, on va accuser la société française de te victimiser et d'être coupable, et donc rassembler tout le monde dans la lutte contre l'islamophobie autour et pour en faire l'élément constitutif de la société française. Se déterminer pour le vote en 2017 aux législatives pour savoir si tel candidat est islamophobe ou tel autre ne l'est pas, évidemment c'est une imposture. Qui va donner les certificats d'islamophobie, de non-islamophobie? Le CCIF, qui se veut évidemment jouer un rôle dans cette affaire. Donc ça, ça me semble une imposture complète. Maintenant, ils ne sont pas du tout djihadistes. La logique des frères musulmans n'est pas ça. Depuis l'affaire du voile, parce qu'en fait, le CCIF aujourd'hui, qui est fait essentiellement d'enfants d'immigrés qui sont passés par l'enseignement supérieur, se distingue de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques en France, qui est toujours présente mais qui a perdu pas mal de plumes, notamment par son alliance temporaire avec Nicolas Sarkozy en 2003. L'UOIF, c'est celle qui avait monté toutes les affaires de voile entre 1989 et 2003-2004. Qui avait construit une victimisation des jeunes musulmans, et c'est le premier qui a construit un lobby communautaire. Eux, ils ne cherchaient pas à détruire la société, ils cherchaient à dealer avec les pouvoirs publics pour être des leaders communautaires. Et Sarkozy, en 2003, il ne faut pas l'oublier, est allé à leur congrès, voyant en eux des musulmans plutôt conservateurs et qui voteraient à droite face à SOS Racisme, qui voterait à gauche, vous voyez. Et alors, ils ont perdu, je pense qu'ils ont raté ce qu'on appellerait le momentum en anglais, le moment propice, lorsque, pendant les émeutes de 2005, l'UOIF, alors je ne sais pas si c'était la sollicitation de Nicolas Sarkozy ou pas, je n'en sais rien, a émis une fatwa en disant que c'était haram, c'était interdit de brûler des voitures. Et de ce fait-là, ils se sont coupés, si vous voulez, de la dimension sociale des émeutes, alors que le CCIF, lui, est beaucoup plus en phase avec eux. Ils ont renouvelé cette alliance des frères musulmans en s'alliant, à toute une partie du gauchisme qui, désespérée parce que le prolétariat, aujourd'hui, en col bleu, vote majoritairement pour le Front National, ont fait de ce néo-prolétariat des jeunes musulmans des quartiers le porteur messianique de l'avenir de l'humanité. Alors, tout ça ne veut pas dire que c'est une condamnation contre les jeunes en question. Et j'insiste beaucoup sur le fait, dans ce livre, que tant qu'on n'aura pas réformé en profondeur notre système éducatif, il ne faisait pas la peine de se mettre le doigt dans l'œil. Ces affaires vont continuer, si vous voulez. Mais, en revanche, il est, me semble-t-il, de mon devoir d'intellectuel et d'universitaire, d'identifier les différents acteurs. Maintenant, si les gens veulent voter aux législatives en fonction d'un tel est antisémite, un tel est anti-islamophobe, c'est leur problème. Mais si vous voulez, mon job, je pense, d'universitaire, j'ai 61 ans, ça fait 35 ans que j'étudie ces phénomènes, c'est d'identifier les acteurs. Après, chacun en fera ce qu'il en voudra et votera pour qui il veut.
Et justement, le qualificatif d'islamophobe, l'injure d'islamophobe, parce que ça n'est évidemment...
Là, c'est devenu un stigmate maintenant. Ouais.
Un stigmate. Vous racontez, Gilles Kepel, que dans une discussion avec le Bondy Blog, on vous a opposé effectivement ce que vous qualifiez de stigmate. Pourquoi, selon vous ?
Ça m'a beaucoup frappé, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé à Clichy-Montfermeil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a parlé dans les chroniques que j'ai eu le plaisir de faire avec vous l'année dernière. Ce livre est aussi, au départ, construit autour de nos chroniques. Puis après, je l'ai augmenté avec un prologue qui reprend depuis Charlie Hebdo jusqu'à Saint-Étienne-du-Rouvray et l'affaire des détachements des filles. Et puis, un épilogue où j'étudie notamment les condamnations à mort et leur logique, puisque j'étais particulièrement concerné, évidemment.
Et, puisque vous avez été condamné à mort.
Oui, parmi d'autres. On est une soixantaine dans ce club assez fermé, mais bon. Et évidemment, ça, c'est quelque chose aussi qui me questionne. J'ai travaillé sur ces sujets depuis plusieurs décennies. Je connais ces questions. Globalement, si vous voulez, je le vois bien, quand je me balade dans la rue au Maghreb ou ici, parce que je parle à l'un des rares gaouris, comme on dit, qui parle arabe à la télé ou à la radio, les gens viennent spontanément vers moi, et même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est que j'ai fait l'effort, on n'est pas nombreux, les études arabes ont été démolies en France complètement, c'est un autre sujet d'irritation très fort chez moi. On n'est pas très nombreux.
Et alors pourquoi cette étiquette d'islamophobe?
Et non, mais c'est pas, elle n'est pas répandue partout. C'est dans ce petit groupe-là. Oui.
Ce groupe-là, parce on vous a accusé.
Oui, parce que le Bondy Blog, qui était au départ, qui a été créé à la suite des émeutes de 2005, à l'aide d'un journaliste suisse, avait pour objet d'aider à l'émergence de talents issus des quartiers favorisés. C'était très bien ce qu'ils ont fait, moi je trouvais ça très bien, et j'y suis allé en toute innocence, parce que je ne suivais pas ça de très près, et je me suis rendu compte que le groupe avait, cette radio avait été, ce site, avait été pris en main complètement par cette espèce de mouvance qui va des indigènes de la République qui ont fait la fameuse université décoloniale interdite aux Blancs cet été, au CCIF, etc., et on n'a jamais parlé des attentats. C'était un tabou. L'objectif, c'était, on parlait, les femmes voilées traînées par les cheveux. Je n'en ai jamais vu personnellement, mais enfin bon, si c'est le cas, évidemment, c'est déplorable, c'est peut-être poursuivi devant les tribunaux. Et j'ai été très frappé par cette polarisation. Et il me semble qu'on a autre chose à faire que dans la société française. Il y a des choses à faire tous ensemble, précisément pour augmenter le niveau éducatif, pour faire en sorte que les jeunes dans les quartiers défavorisés puissent participer à la société et se projeter comme partie d'entre elles dans celle-ci et dans son avenir, au lieu de se crisper sur des identités de défense qui créent notre fracture. Si on n'arrive pas à dépasser ces identités, notre pays est foutu. Et je ne voudrais pas que l'élection présidentielle soit prise en otage par ce genre d'ânerie. Je pense qu'on doit aller de l'avant. Ça, c'est le citoyen
autant,
qui parle.
Pour autant, pardonnez-moi Gilles Kepel, pour autant, est-ce que vous niez l'existence d'un certain nombre d'actes qui sont des actes anti-musulmans? Non,
pas du tout, au contraire, le livre en parle aussi. Et
donc qu'est-ce qui vous sépare du discours de ces jeunes? Parce que finalement, vous évoquez...
Parce qu'on n'a pas le droit, c'est la différence, la fausse symétrie avec l'antisémitisme. L'antisémitisme n'interdit pas la critique des textes du judaïsme, de même que moi je ne suis pas croyant, je peux que, personnellement, j'en fais pas profession, mais critiquer la Bible, les évangiles, etc. Là, l'islamophobie, c'est une manière, la lutte contre l'islamophobie, c'est une manière de construire un système de pouvoir sur également tous nos concitoyens d'origine musulmane en disant interdiction de critiquer les textes sacrés, mais quelle interprétation? L'interprétation la plus rigoriste. Donc, tous ceux qui ne suivent pas la logique des frères muses, des salafs ou autres, ce sont des mauvais musulmans, voire ce sont des apostats. Et on sait ce que les djihadistes veulent faire des apostats. Et je crois que là aussi, quand j'étais à la commission Stasi, c'était la même chose. Qu'est-ce qui nous avait motivés aussi? C'est que la pression qui était mise sur les jeunes filles d'origine de confession musulmane, qui, si elles ne portaient pas un voile, étaient considérées comme des réprouvées par les autres, vous voyez? Et donc, ce qui était quelque chose qui allait complètement foutre en l'air le système éducatif français.
Merci beaucoup Gilles Kepel de nous avoir exposé votre point de vue sur ces constructions identitaires aujourd'hui à l'œuvre dans la société française. On vous retrouve vers 8h20 où on continuera à évoquer cette question et aussi votre regard sur la scène internationale. Et je rappelle donc le titre de ce livre qui reprend en partie des chroniques que nous avons eu l'occasion d'offrir aux auditeurs. La Fracture, une coédition Gallimard France Culture. On se retrouve donc vers 8h20, Gilles Kepel. Il est 8h sur France Culture.